Bonjour, mes frères et sœurs. Je suis heureux de vous revoir tous en ce jour de sabbat. Commençons par la Bible. Ouvrez le livre de Jude. Le livre de Jude. Il se trouve juste avant l'Apocalypse. C'est un livre court. L'un des plus courts de la Bible. Il ne comporte qu'un seul chapitre. Mais il est néanmoins puissant. Je suppose que la concision fait sa force, mais nous allons ouvrir le livre de Jude et commencer à lire. Commençons à lire au verset 9. Cela interrompt encore la réflexion, mais c'est un bon endroit pour reprendre. Nous allons donc commencer à Jude 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il disputait avec le diable, ne porta pas contre lui un jugement accusateur, mais il dit, que le Seigneur te réprimande. Donc, au lieu d'avoir un archange ici, Michel, il est en conflit avec un autre archange ici, le diable. Ils se disputaient au sujet de l'emplacement du corps de Moïse, et Michel a dit, vous savez quoi? Je ne vais même pas te condamner. Je vais laisser Dieu le faire. Cela concerne le fait de dire du mal des dignités ou des autorités. Même Michel a dit qu'il ne le ferait pas. Nous pouvons tous en prendre note, mais continuons notre lecture. Verset 10. Mais cela parle à tort de ceux qu'ils ne connaissent pas. Et, quand ils en ont une connaissance naturelle, comme les bêtes sans raison, ils se corrompent eux-mêmes. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont précipités avec avidité à la poursuite du salaire de Balaam, et ils ont péri dans la révolte de Corée. Souvenez-vous de l'Ancien Testament. Corée s'est opposé à Moïse. Caïn, évidemment, son parcours est clair, et vous avez aussi Balaam. Donc, trois individus ici qui n'ont pas très bien réussi. Mais verset 12, cela. Ceux dont nous venons de parler, que ce soit le diable, Caïn, Balaam, Corée. Ceux-là sont des tâches dans vos festins d'amour. Vos festins d'amour. Nous allons continuer à lire le reste du verset ici. Lorsqu'ils festoient avec vous, ils se nourrissent sans crainte, ils sont des nuages sans eau, emportés par les vents, des arbres dont les fruits se flétrissent, sans fruits. Deux fois mort, arraché par les racines. Verset 13. Des vagues furieuses de la mer, écumant leur propre honte, des étoiles errantes auxquelles est réservée pour toujours l'obscurité des ténèbres. Pensez à l'eau qui mousse, vous l'avez probablement vue sur la plage, ou aux arbres qui ne portent pas de fruits. Ils sont pratiquement inutiles. Cependant, mes frères, nous avons vu une phrase importante que j'ai soulignée, et nous la voyons dans un contexte très négatif. Mais nous voyons cette phrase, festin de charité. Festin de charité. Qu'est-ce que cela signifie? Que signifie cette phrase? Nous savons tous ce que sont les fêtes. La Bible parle des fêtes, des jours saints de Dieu. Nous savons tous ce que sont les fêtes. Et nous savons également ce qu'est la charité. La charité est ce que la Bible appelle l'amour. La charité ici est donc agapé ou agapé. Il s'agit donc d'un type d'amour particulier. Ce n'est pas philia. Pensez à Philadelphie, c'est l'amour fraternel. La charité est également présente ici. La charité ici n'est pas éros. Il s'agit de l'amour romantique. L'amour entre un mari et une femme. Mais la charité ici est agapé ou agapé, c'est l'amour de Dieu. Alors pourquoi Dieu choisit-il d'utiliser ce terme, les fêtes de charité? Ou comme Strong l'appelle, et nous y faisons souvent référence dans l'Église, les fêtes d'amour. Cela pourrait sembler être une expression poétique qui fait du bien, vous savez, nos fêtes d'amour, nos fêtes de charité. Cependant, mes frères, Il s'agit d'une description spécifique utilisée par Dieu. Lorsque l'on associe ces deux termes, cela devient une lentille ou un contexte qui nous permet de voir à la fois l'amour et les fêtes. Dieu lie ses fêtes à l'amour. Ce faisant, il nous indique en réalité comment nous devons aborder ces fêtes et comment nous devons manifester l'amour divin. Maintenant, mes frères, nous entrons dans la saison des jours saints d'automne. Nous l'avons entendu dans le sermon. Nous entrons dans la saison des jours saints d'automne. Nous aurons de multiples occasions de participer à ce que Dieu appelle les festins d'amour. Une merveilleuse occasion de le faire. Nous avons les trompettes, le grand pardon, la fête des tabernacles, le dernier grand jour. De multiples occasions de participer aux fêtes d'amour de Dieu. Mon objectif aujourd'hui est donc de nous aider à ne pas nous contenter d'assister à ces fêtes ou de compter les jours jusqu'à leur fin. Vous savez, encore une saison des jours saints d'automne, très bien, faisons le nécessaire. Mon objectif aujourd'hui est que nous adoptions une approche différente. Je souhaite que nous apprenions à embrasser ces fêtes d'amour. Maintenant, pour embrasser pleinement ces fêtes de charité, ou fêtes de l'amour, comme je vais probablement les appeler de manière interchangeable tout au long du message, nous devons vraiment comprendre cette idée de charité. J'en ai déjà parlé un peu. Mais nous devons vraiment comprendre, pour tirer le meilleur parti de cette expression, fête de l'amour, nous devons comprendre ce qu'est vraiment l'amour divin. Bien sûr, dans le monde, nous utilisons le mot amour à tout va, et je suis moi-même coupable de cela. Nous disons « j'ai adoré ce film » ou « j'adore le gâteau au chocolat » ou encore « vous avez des histoires d'amour » et ce mot « amour » est utilisé à tout va dans le monde. Cependant, très peu de personnes savent vraiment ce qu'il signifie, en particulier l'amour de Dieu. Ouvrez votre Bible au chapitre 5 de la première épître de Jean. Comme nous allons le voir, l'amour est bien plus qu'un simple sentiment. Bien plus qu'un simple sentiment que nous éprouvons. Première épître de Jean, chapitre 5. La Bible est très explicite lorsqu'elle parle de ce qu'est l'amour, en particulier l'agapé. Première épître de Jean, chapitre 5. Nous allons commencer au début du chapitre. Première épître de Jean, chapitre 5. Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui-ci aime aussi celui qui est né de lui. Nous parlons donc de l'amour pour Dieu le Père, ainsi que de l'amour pour Jésus-Christ, qui est également, bien sûr, Dieu. À ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu, et que faisons-nous? Et que nous gardons ses commandements. C'est un lien intéressant. Verset 3, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Maintenant, lorsque le monde pense à l'amour, et parfois même lorsque nous pensons à l'amour, si nous ne pensons pas dans le contexte des Écritures, l'amour de Dieu, oh, j'aime Dieu, eh bien, les Écritures disent, eh bien, si vous m'aimez, c'est Dieu qui parle, si vous m'aimez, respectez mes commandements. Si vous m'aimez, comme le Père, si vous aimez mon Fils, Jésus-Christ, qui est engendré, qui est Dieu. Si vous nous aimez, respectez mes commandements. Mes frères, l'amour n'est pas seulement un sentiment. Ce n'est pas sentimental. L'amour, c'est l'obéissance. L'amour, c'est obéir à Dieu. Si vous m'aimez, si vous voulez m'être montré votre amour, dit Dieu, obéissez-moi. Faites ce que je vous demande de faire. Et devinez quoi? Ce que je vous demande de faire n'est pas pénible. Ce n'est pas difficile. Vous vous dites peut-être, en êtes-vous certain? Obéir à Dieu n'est pas difficile. Cela dépend de votre état d'esprit. Bien sûr, C'est difficile si vous luttez contre la nature humaine et que vous souhaitez faire des choses qui ne sont pas celles de Dieu. Nous sommes tous coupables de cela à des degrés divers. Mais Dieu dit, mes commandements ne sont pas pénibles. Ils sont bons pour vous. Et ils sont le moyen de montrer que vous m'aimez. Ce seul verset, mes frères, un seul verset, devrait déjà commencer à façonner notre vision de ces festins d'amour, ces festins de charité, ces jours saints de Dieu. Les jours saints sont en eux-mêmes des actes d'amour de Dieu à notre égard. Réfléchissez-y. Les jours saints, les festins de Dieu, sont des actes d'amour de Dieu à notre égard, en tant que son peuple. Et ils ne sont pas censés être pesants. Ils ne sont pas censés être pénibles. Ils ne sont pas censés être un fardeau. Ces agapes, ces fêtes de charité. Ouvrez votre Bible à Romains 13. Romains 13. Restons dans le Nouveau Testament, Romains 13. À partir du verset 8, Romains 13, verset 8. Romains 13, verset 8, dit, « Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. » Voyez-vous à nouveau le mot « amour » Car celui qui aime les autres a fait quoi ? A accompli la loi. Nous voyons à nouveau ce lien. Car ceci, verset 9. Car ceci, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignage, tu ne convoiteras point. D'où provient ce que nous lisons ? Ce sont les 10 commandements. D'accord, mais quelle est cette loi à laquelle Dieu fait référence ici lorsqu'il dit d'accomplir la loi en aimant son prochain? Eh bien, elle est liée aux 10 commandements. Il n'y a pas de mystère. Continuons. S'il y a un autre commandement, il est brièvement résumé dans celui-ci, à savoir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 10. L'amour ne fait pas de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Paul fait valoir le même argument que Jean vient de faire. L'amour n'enfreint pas la loi. L'amour accomplit la loi. Mes frères, si nous nous trouvons dans une situation où nous faisons quelque chose qui va à l'encontre des commandements de Dieu, à l'encontre de ce qu'il attend de nous, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu. Mais remarquez que Paul a ajouté un autre élément. Nous avons parlé de l'amour envers Dieu. Il a ajouté un autre élément, les autres. Aimer les autres. Il a lié les deux. Donc, pour accomplir cette loi, nous devons aimer Dieu et nous devons aimer les autres. L'amour ne fait aucun mal à son prochain. Cela signifie penser au-delà de nous-mêmes, ne pas être égoïste en matière d'amour. Bien sûr, il est bon de s'aimer soi-même. Il faut s'aimer soi-même. Le contraire, c'est se détester soi-même. Personne ne souhaiterait cela. Bien sûr, vous devez vous aimer. Cependant, nous devons penser au-delà de nous-mêmes. Nous devons penser aux autres. Et cela met parfaitement en place l'autre élément de l'amour divin. Matthieu 22. Matthieu 22. Cela met parfaitement en place cet autre élément de l'amour divin. Rappelez-vous, nous faisons le lien entre l'amour et les faits de Dieu. Matthieu 22, verset 37. Matthieu 22, verset 37, dit, Jésus lui répondit, Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Nous devons nous consacrer entièrement à l'amour de Dieu. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second commandement, nous venons de lire le premier, le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ce livre sur vos genoux, ce livre qui se trouve ici sur le lutrin et que je suis en train de lire, est composé de la loi et des prophètes. La Bible est divisée en deux parties, la loi et les prophètes. Christ dit que tout ce livre, son plan, qui contient le plan de Dieu, la pensée de Dieu, la façon dont Dieu pense, notre avenir, la façon dont les gens seront punis, la façon dont les gens seront récompensés, tout le plan de Dieu repose sur ces deux commandements, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Deux piliers, en fait. Dieu les appelle des piliers. Toute la structure du plan de Dieu repose sur ces deux piliers. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. L'autre élément important de l'amour divin est le souci des autres. Il y a donc le respect des commandements de Dieu et le souci des autres. C'est cela l'amour. C'est cela l'amour divin. Et ce souci des autres, mes frères, n'est pas facultatif. C'est un commandement. Il nous est commandé d'avoir cette sollicitude envers les autres. Nous devrions déjà commencer à voir ce lien crucial, cette connexion cruciale lorsque nous parlons des fêtes de charité, des fêtes d'amour. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13. Nous voyons déjà que ces fêtes ne concernent pas seulement l'obéissance, mais aussi la sollicitude envers les autres. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13. C'est le chapitre sur l'amour. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13. Nous allons lire plusieurs passages ici, des versets familiers, mais je souhaite que vous les considériez dans le contexte des jours saints, des fêtes de Dieu. Par exemple, pensez à la fête des tabernacles. Pendant que nous lisons cela, je souhaite que vous pensiez à la fête des tabernacles. Pensez au service et à la participation au service. Pensez ou imaginez la communion fraternelle que nous allons avoir. Imaginez ces longues conversations qui se prolongent dans la soirée, cette communion fraternelle avec des personnes que nous n'avons peut-être pas vues depuis la dernière fête. Des personnes venues de différentes régions du pays, de différentes parties du monde. Imaginez ce serveur qui se trompe dans votre commande au restaurant. D'accord, j'étais tout à fait d'accord avec cette histoire d'amour divin jusqu'à ce qu'il brûle mon steak. J'ai payé cher pour ce steak. Où est l'amour de Dieu? Pensez aux longues files d'attente. Pendant que nous allons lire ce passage, pensez aux longues files d'attente à l'aéroport ou aux longs embouteillages lorsque vous vous rendez sur votre lieu de travail. Pendant que vous imaginez tout cela, et pendant que je me prépare à lire ce passage, je voudrais que vous vous posiez la question suivante. Êtes-vous prêt à apporter le type d'amour dont je viens de vous donner un exemple, celui de la fête des tabernacles? 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4. 1er Épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 4. La charité ou l'amour est patient. Et dans cette longue patience, il est bienveillant. La charité n'est pas envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. J'ai les poches pleines de la deuxième dîme. Je dépense ici mon argent durement gagné. Vous êtes censé me servir et le faire exactement comme je vous l'ai demandé. Ou encore, ce membre m'a offensé. Il a dit quelque chose qui ne m'a pas plu, et j'ai une certaine attitude à son égard. Ce n'est pas le type d'amour de Dieu dont il est question dans ce passage. Verset 5. Elle ne se comporte pas de manière inconvenante, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas facilement, ne soupçonne pas le mal. Devrais-je prendre ce troisième verre de whisky? Dieu nous invite à nous réjouir. Eh bien, si vous ne pouvez pas le supporter et que ce n'est pas votre norme, mes frères, nous ne devrions pas être ivres et nous comporter de manière inappropriée à aucun moment, encore moins lors de la fête de Dieu, sa fête de la charité. Verset 6. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il supporte tout, il croit tout, il espère tout, il endure tout. La charité ne périt jamais. Elle est toujours là. Elle ne disparaît jamais. Mes frères, c'est cela l'amour. C'est cet état d'esprit, cette conduite que nous devons adopter non seulement lors de la fête des tabernacles, mais aussi lors de toutes les fêtes de Dieu, toutes les fêtes qui ont lieu au cours d'une année donnée, à commencer par le printemps et, bien sûr, jusqu'à l'automne. Remarquez le verset 8, l'amour ne périt jamais. L'amour devrait toujours être présent, quelles que soient les circonstances. L'obéissance et la sollicitude devraient toujours être présentes, quelles que soient les circonstances. Cela peut sembler difficile, mais, mes frères, c'est cela l'amour divin. C'est l'obéissance et la sollicitude. Et, bien sûr, parce que Dieu est amour, nous connaissons les versets, il manifestera son amour envers nous, ses enfants. Les fêtes et leur signification en sont un excellent exemple. Les jours saints eux-mêmes sont fondés sur l'amour de Dieu. Ils sont la manifestation concrète de l'amour de Dieu. Les fêtes sont la manifestation concrète de l'amour de Dieu. Chaque fête illustre une partie différente du plan de Dieu. Et le plan de Dieu montre son amour pour sa création. Chaque fête est un exemple détaillé de cet amour. Les jours saints, les fêtes de Dieu, ne sont pas seulement des événements sur un calendrier. Ils sont l'expression de l'amour que Dieu nous porte. C'est l'amour en action. Les fêtes, mes frères, comme nous le savons et comme nous le rappelons chaque année, et comme Dieu nous commande de les répéter et de les célébrer chaque année, toutes les fêtes de Dieu font partie de son plan pour sauver le monde, pour se reproduire lui-même. Elle résume ce que Dieu accomplit, étape par étape, et cet amour, ce plan, guide Dieu dans sa pensée, dans la manière dont il nous traite. Ce plan est entièrement motivé par une préoccupation sincère pour les autres. Ouvrez votre Bible au Lévitique chapitre 23. Lévitique chapitre 23. Nous allons examiner comment la Bible montre l'amour de Dieu à travers ses jours saints. Lévitique chapitre 23. C'est le chapitre sur les jours saints. Il est utile de le marquer, car il résume très bien les jours saints, les fêtes de Dieu. Lévitique 23. Voici, mes frères, nous allons lire, voici une liste complète. Utilisez ce terme. Une liste complète des jours saints de Dieu, Lévitique 23. Chaque fête annuelle, et comme nous allons le voir, le sabbat hebdomadaire, est présenté ici comme une fête, et ils sont tous présentés dans l'ordre. Commençons au début du chapitre, Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur ce que sont les fêtes de l'Éternel. » Il n'y a donc aucun mystère ici, nous savons de quoi nous parlons. Dieu dit, « Moïse, je veux que tu parles à mes enfants. Parle aux enfants d'Israël au sujet des fêtes de l'Éternel, que tu proclameras comme des assemblées saintes pour vous réunir. Mon peuple doit se rassembler ces jours-là. Même ceux-ci sont, quoi? Mes fêtes. Si vous avez bien suivi, tout au long du message, j'ai parlé des fêtes de Dieu, ce sont les fêtes de Dieu. C'est de là que je tire cette information. Dieu dit, ce sont mes fêtes. Elles m'appartiennent. Ce ne sont pas des fêtes juives. Ce ne sont pas des traditions facultatives. Ce sont des fêtes ordonnées par Dieu, des rassemblements spécifiquement ordonnés, des assemblées saintes où deux personnes se réunissent ces jours-là, comme Dieu l'ordonne. Et puisque, encore une fois, Dieu est amour et que ce sont ses fêtes, les fêtes elles-mêmes seront des exemples d'amour. Des fêtes d'amour. Dieu est amour. Ce sont mes fêtes. Tout est lié. Tout est lié. Ces faits reflètent le caractère de Dieu, son plan et son souci pour l'humanité. C'est le but des fêtes. Verset 3. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, un jour de repos, une sainte convocation. Nous devons nous réunir le jour du sabbat, mes frères. Vous ne ferez aucun travail. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos habitations. Ce sont les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous proclamerez à leur temps fixé. Frères et sœurs, je le sais. Je le sais parce que, vous savez, je suis dans l'Église depuis assez longtemps et j'ai entendu dire que le sabbat hebdomadaire est une fête. Mais parfois, je l'oublie. Vous pensez à la fête, d'accord, oui, la fête, vous avez le printemps, la Pâque, ou les jours des pains sans levain, vous avez la Pentecôte, je l'ai déjà mentionné, les trompettes, en descendant dans la liste, mais parfois nous pouvons oublier que chaque sabbat est une fête. Tous les 6 jours, après 6 jours, ou tous les 7 jours, nous nous réunissons pour une fête. Cela représente le sabbat hebdomadaire de Dieu, une fête, symbolise le repos éternel de Dieu. C'est une occasion hebdomadaire de montrer notre amour et notre sollicitude envers Dieu. Dieu nous donne cet amour et cette sollicitude en nous commandant de nous reposer de tout notre travail. Nous pouvons nous ressourcer. Nous pouvons recharger nos batteries. Nous pouvons nous réunir avec d'autres frères. C'est un don de Dieu. C'est une forme de sollicitude de la part de Dieu chaque semaine. Mais c'est aussi une occasion pour nous tous, en tant que son peuple, de nous réunir et de manifester cet amour dont je parle. Et c'est un commandement. Le sabbat est un commandement. Il est lié à l'amour de Dieu. Et le sabbat est une occasion pour nous de manifester notre sollicitude envers les autres. Cela est également lié à l'amour de Dieu. N'oubliez jamais que le sabbat hebdomadaire est une fête. Et si vous l'oubliez, retournez simplement au Lévitique et relisez-le. Lévitique 4, voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations, que vous proclamerez à leur temps fixé. Le 14e jour du premier mois, au soir, c'est la Pâque de l'Éternel. Nous voyons donc ici que la Pâque est une autre fête, et la Pâque, vous avez la nuit de la Pâque, bien sûr, et vous avez les jours des pains sans levain. Tout cela s'appelle la Pâque. Et que représente la Pâque? Elle représente le sacrifice du Christ et l'effacement du péché. C'est un acte d'amour de la part de Dieu. Parce que nous avons un Sauveur en Jésus-Christ, nos péchés peuvent être pardonnés et nous avons la possibilité de nous connecter avec Dieu notre Père. L'iniquité nous a séparés de l'amour de Dieu, mais grâce au sacrifice du Christ, grâce à son sang versé, tout a été effacé. Nous pouvons désormais, une fois de plus, entrer en contact avec Dieu. Lorsque nous péchons, non pas si, mais lorsque nous péchons, nous avons la possibilité de nous repentir et de demander pardon à Dieu au nom de son Fils, Jésus-Christ. Une fois de plus, nous pouvons entrer en relation avec Dieu. Tout cela est représenté par la Pâque. C'est l'amour divin. Nous prenons les symboles, comme cela nous est commandé, nous retirons le levain de nos demeures, de nos espaces, tout cela nous est commandé, et tout cela est un acte de sollicitude de la part de Dieu lui-même. Verset 15. Toujours ici dans Lévitique 23, verset 15. Vous compterez 7 sabbats à partir du lendemain du sabbat, à partir du jour où vous aurez apporté la gerbe de l'offrande agitée. Vous compterez 50 jours jusqu'au lendemain du 7e sabbat, et vous offrirez une nouvelle offrande de nourriture à l'Éternel. Frères et sœurs, c'est la Pentecôte. La Pentecôte. La Pentecôte signifie compter 50. Nous venons de lire cette semaine et compter 50 jours après le lendemain, le sabbat pendant les jours des pains sans levain nous amène à la Pentecôte. La Pentecôte désigne les prémices du plan de Dieu. Le plan de Dieu se déroule par étapes, et les prémices représentent la première étape de la reproduction de Dieu. Mes frères, nous sommes les prémices. Nous sommes les prémices. Dieu se reproduit. C'est un acte d'amour divin. Et il se reproduit à travers son peuple pour continuer à aider les autres. Ce sont les jours de, c'est le jour de la Pentecôte. Ensuite, il y a les jours saints d'automne, qui sont la saison dans laquelle nous entrons. Verset 24. Lévitique 23, parle aux enfants d'Israël, et dit-leur, le septième mois, le premier jour du mois, c'est la nouvelle lune, vous aurez un sabbat, un souvenir du son des trompettes, une sainte convocation. Verset 27, qu'y a-t-il après les trompettes? Le dixième jour de ce septième mois, il y aura un jour d'expiation. Ce sera une sainte convocation. Une fois de plus, nous nous réunissons. Vous affligerez vos âmes et vous offrirez une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là, car c'est un jour d'expiation, pour faire l'expiation pour vous devant l'Éternel, votre Dieu. Voilà donc l'expiation. Verset 34. Lévitique 23, 34. Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, le quinzième jour de ce septième mois, ce sera la fête des tabernacles pendant 7 jours pour l'Éternel. Le premier jour, verset 35, ce sera une sainte convocation. Vous ne ferez aucun travail servile. Pendant 7 jours, vous offrirez une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Le huitième jour, ce sera pour vous une sainte convocation, et vous offrirez une offrande consumée par le feu à l'Éternel. Ce sera pour vous une assemblée solennelle, et vous ne ferez aucun travail servile. Nous venons de lire au sujet de la fête des tabernacles et du dernier grand jour. Frères et sœurs, ces jours saints dont nous avons lu le récit n'existent pas sans raison. Dieu ne les a pas institués sans raison, simplement parce qu'il avait besoin de s'occuper. Ces jours saints sont importants. Ils nous enseignent. Ils nous illustrent beaucoup de choses, comme je l'ai dit, dans le plan de Dieu. Ce sont des leçons concrètes. Les gens apprennent par l'exemple. Nous apprenons tous par analogie et par exemple, et les choses sont liées entre elles afin que nous puissions vraiment comprendre. C'est ce que font les jours saints. Ce sont des leçons concrètes sur la manière dont Dieu réalise son plan pour sa création. Mes frères, lorsque nous observons ces fêtes et que nous y apportons l'amour de Dieu, lorsque nous y assistons, que nous nous y préparons, que nous y servons et que nous faisons tout ce que Dieu attend de nous, nous participons en fait à ce plan. Oui, beaucoup de choses illustrées par les jours saints concernent l'avenir, mais beaucoup d'entre elles concernent notre époque actuelle. En participant à la fête de Dieu, nous participons en fait à son plan. Cela se passe maintenant. Ce n'est pas seulement quelque chose qui se passera dans le futur. Cela se passe maintenant. Mes frères, nous devons vivre le moment présent. Lorsque nous célébrons ces fêtes et que nous y apportons l'amour divin, nous disons, Dieu, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec ton plan. J'aime ce que tu aimes. J'obéirai à tes commandements. Mes frères, ne vous contentez pas d'assister aux fêtes de Dieu. Embrassez-les. Savez-vous ce que signifie embrasser? Vous serrez dans vos bras, vous étreignez et vous serrez fort pour montrer votre affection, cette affection divine lorsqu'il s'agit des jours saints. Pensez à un mariage. Quelqu'un se marie, peut-être un membre de votre famille ou un ami. Si vous étiez invité au mariage d'une personne qui vous est chère, arriveriez-vous en retard? Porteriez-vous n'importe quoi? Seriez-vous négligé? Parleriez-vous pendant la cérémonie? Seriez-vous perturbateur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous vous prépareriez. Vous seriez respectueux. Vous seriez joyeux. Pourquoi? Parce que c'est une célébration de l'amour. C'est ce qu'est un mariage. C'est une célébration de l'amour. Dans ce cas, Eros, l'amour, mais c'est une célébration de l'amour et du plan de Dieu pour la famille. Mais mes frères, j'utilise cette analogie, c'est exactement ainsi que nous devrions traiter les jours saints de Dieu. Venez pour vous amuser. Venez pour la fraternité. Soyez joyeux. La nourriture. Toutes ces choses, mais ne manquez pas non plus le but spirituel de ces fêtes. Ne manquez pas ce but spirituel, car elles ont certainement un but. Ce sont les fêtes de Dieu. Des fêtes de charité. Ce ne sont pas simplement des événements comme les autres. J'ai parlé spécifiquement, au fur et à mesure, des jours saints du printemps et de la façon dont chacun d'entre eux montre l'amour de Dieu. Vous remarquerez que je viens de parler des trompettes, de l'expiation, de la fête des tabernacles et du dernier grand jour. Je ne suis pas vraiment entré dans les détails, mais je l'ai fait exprès afin de pouvoir passer un peu de temps sur ces sujets. Nous entrons maintenant dans les jours saints de l'automne. C'est la saison des rencontres et des actions, et je souhaite que nous apprécions le moment où nous entrons. Nous avons évidemment beaucoup parlé de l'amour de Dieu et de sa signification, de l'obéissance et de la sollicitude envers les autres, et un peu des fêtes et de leur importance, mais comme je l'ai fait pour le printemps, je souhaite vraiment me concentrer sur les jours saints d'automne. Maintenant, comme je l'ai lu tout à l'heure pour les trompettes, c'est la nouvelle lune de Tichrin. Nous savons tous ce que sont les nouvelles lunes et nous les voyons évidemment sous un jour différent maintenant, mais les trompettes sont une nouvelle lune, et c'est la nouvelle lune du septième mois de Tichrin. Elle est appelée commémoration du son des trompettes, une sainte convocation, comme nous l'avons lu. Une commémoration du son des trompettes, une sainte convocation. Nous sommes censés nous rassembler très bientôt, dans quelques jours. C'est exactement ce que nous allons faire. Nous allons nous réunir lors de la nouvelle lune de Tichre, également connue sous le nom de trompette. Les trompettes représentent la victoire et le triomphe. Ouvrez votre Bible au chapitre 11 de l'Apocalypse. Le chapitre 11 de l'Apocalypse. Les trompettes représentent la victoire et le triomphe. Nous discutons de la manière dont les jours saints, les fêtes de Dieu, sont des manifestations de son amour envers nous, son peuple, et font partie de son plan pour l'humanité. Apocalypse 11. Apocalypse 11, verset 15. Apocalypse 11, 15. Et le septième ange ou messager sonna de la trompette. Si vous découvrez cela et que vous n'avez aucun point de repère, qu'est-ce que cela signifie? Le septième messager ou ange sonna de la trompette. Que signifie cela? Veuillez garder votre main là et aller à Apocalypse 8. Je suis certain que nous le savons, mais je pense qu'il est bon de le lire. Apocalypse 8, nous allons commencer au début du chapitre. Apocalypse 8, verset 1, quand il eut ouvert le septième sceau, il y eut un silence dans le ciel, pendant environ une demi-heure. Et je vis les sept messagers ou anges qui se tenaient devant Dieu, et on leur donna cette trompette. Chacun de ces messagers possède donc une trompette. Verset 6, passons au verset 6, et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à sonner. Pour sonner de la trompette. Revenons maintenant à l'endroit où nous en étions dans l'Apocalypse, chapitre 11. Revenons à l'Apocalypse, chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette. Il sonna. Et lut dans le ciel de grandes voix qui disaient « Le fait que cette trompette soit sonnée signifie donc quelque chose. » Il est dit ici « Les royaumes de ce monde sont devenus les royaumes de notre Seigneur et de son Christ. » Il est donc question ici à la fois du Père et du Christ. Les royaumes de notre Seigneur et de son Christ, et il régnera pour toujours et à jamais. Les trompettes symbolisent Dieu remportant la victoire sur tous les royaumes de ce monde et établissant son royaume, le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est établi. La victoire de Dieu mettra fin à la guerre, elle mettra fin à la rébellion et elle établira la justice. Dieu vaincra le Dieu de ce monde et établira son gouvernement. C'est à cela que les trompettes sont liées. La fête des trompettes est un jour de victoire, un jour de triomphe, un jour de délivrance finale. Vous pourriez vous demander, d'accord, mais comment les trompettes révèlent-elles l'amour de Dieu? Nous venons de le lire. Dieu ne laisse pas le monde dans le chaos pour toujours. Nous pourrions parfois nous demander, Père, quand reviendras-tu? Quand viendras-tu réparer ce monde? Quand remporteras-tu la victoire? Quand ce verset que nous venons de lire s'accomplira-t-il enfin? Eh bien, mes frères, cela arrivera. Dieu interviendra, et ce sera l'acte ultime de sollicitude et d'amour. Le retour du Père en Christ est l'acte ultime de protection et d'espoir pour ce monde qui souffre actuellement, pour les personnes qui y vivent et qui souffrent. Qu'en est-il du jour des expiations observé 9 jours plus tard? Comment l'expiation s'inscrit-elle dans tout cela? Techniquement, l'expiation n'est pas ce que nous appellerions un jour de fête. Je pense que c'est un peu exagéré. Vous savez, nous avons jeûné. L'expiation sera un jeûne. Nous aurons très faim. Oh, c'est un grand jour de fête. Eh bien, pas tout à fait. Pas tout à fait. L'expiation n'est donc pas ce que l'on pourrait appeler un jour de fête. Bien sûr, elle figurait toujours parmi les faits de Dieu, mais techniquement, elle n'est pas considérée comme un jour de fête en termes de nourriture et tout cela. Mais il est dit ici, et comme nous l'avons vu dans Lévitique 27, vous vous en souvenez, qu'il s'agit d'un jour où nous affligeons nos âmes, ce qui signifie jeûner. Nous passons donc 24 heures sans nourriture ni eau, et nous ne travaillons pas, bien entendu. Il n'est pas nécessaire de travailler, simplement parce que nous ne préparons pas de nourriture comme nous le ferions lors d'un jour saint ordinaire. Le jour de l'expiation n'est donc pas techniquement un jour de fête, mais il n'en est pas moins important. Restons dans l'Apocalypse. Allez à l'Apocalypse, chapitre 20. Oui, ce n'est pas un jour de fête, mais ce jour n'en est pas moins important. Apocalypse 20, verset 1. Je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, nous savons donc de qui il s'agit. Et il le lia pour 1000 ans, et il le jeta dans l'abîme sans fond, qui est la mort. Et il le ferma et mit un sceau sur lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il doit être délié pour un peu de temps. Satan sera donc ramené, mais il sera jeté dans l'abîme sans fond et ne posera plus de problème pendant 1000 ans. Satan, le grand séducteur, est écarté pendant 1000 ans. L'expiation, mes frères, l'expiation est une grande remise à zéro du monde. Imaginez un monde où Satan n'est pas là pour entraver le progrès, tenter les gens, provoquer des conflits entre les gouvernements et au sein des familles. Imaginez un monde où Satan n'est plus là pour faire obstacle. En conséquence, l'humanité peut enfin être unie. Réfléchissez à l'expiation, à sa signification. Cela pourrait être, l'humanité peut enfin être unie à Dieu. Comment l'expiation révèle-t-elle l'amour de Dieu pour son peuple? Eh bien, il élimine le Dieu de ce monde. Il élimine Satan et tout ce qu'il représente, le mal et la méchanceté qu'il apporte. Satan est un menteur. C'est un meurtrier. Et les Écritures disent qu'il était un meurtrier dès le commencement. Et ce menteur et tueur, Satan, est trop puissant pour que nous puissions l'affronter seul. Mes frères, nous ne pouvons pas affronter et combattre cet être, Satan le diable, par nous-mêmes. Nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et Dieu intervient en faveur de son peuple. Il nous protège du Dieu de ce monde qui ne souhaite rien d'autre que détruire le peuple de Dieu et, par conséquent, détruire le plan de Dieu. Mes frères, qui sait combien d'anges nous entourent? Qui sait combien de fois Dieu est intervenu en faveur de son peuple, nous éloignant des dangers dans lesquels Satan aimerait nous voir nous engager? Mais ce que l'expiation signifie, c'est qu'au lieu de faire cela de manière continue pour son peuple, Dieu élimine Satan de la scène pour le monde entier. C'est un acte d'amour. Avec Satan hors d'état de nuire, l'humanité peut enfin adorer Dieu sans que Satan ne s'interpose. Dieu ne veut que personne ne périsse. Alors, que fait-il? Il élimine la tromperie religieuse et d'autres types de tromperies. Il élimine tout cela. Le monde a alors enfin l'occasion de comprendre et, finalement, de se repentir. L'expiation n'est pas une fête, ce n'est pas une fête. Que fait-elle? Elle prépare la grande fête. Le prochain jour saint dont nous allons parler. La plus longue fête de la saison. C'est la fête des tabernacles. La fête des tabernacles. Nous avons vu dans le Lévitique, nous parlons de la fête et nous l'expliquons. Nous avons vu que le Lévitique nous commande de demeurer dans des cabanes pendant 7 jours. Nous devons donc voyager et demeurer dans des cabanes pendant 7 jours. Alors que nous commençons à présenter ce jour saint et à expliquer en quoi il s'agit d'un acte d'amour de la part de Dieu, Dieu nous accorde du temps loin de notre vie normale pour être enseignés, rafraîchis et encouragés. Considérez la fête des tabernacles de cette manière. Nous dirons parfois que c'est le plan de vacances de Dieu. Et c'est le cas. Mais remarquez que j'ai dit les vacances de Dieu. Oui, nous pouvons planifier nos propres vacances, et nous avons le droit de le faire. Si ce sont nos vacances, nous pouvons les planifier, et nous pouvons décider de ce que nous souhaitons faire, où nous souhaitons aller. Nous pouvons choisir de passer du temps ici ou là. Cependant, cette fête est les vacances de Dieu. Son projet de vacances pour son peuple. Donc, bien sûr, c'est lui qui dicte les conditions de ce à quoi cela ressemble. Mais revenons à cette idée de tabernacle, une cabane est un tabernacle. C'est pourquoi on l'appelle la fête des tabernacles. On appelle aussi ce jour saint, ces 7 jours, la fête des cabanes. La fête des cabanes. Et non, nous ne restons pas dans des cabanes faites de branches. Au fil des décennies, certains ont séjourné dans des tentes et d'autres structures similaires. Cependant, mes frères, nous séjournons dans des chambres d'hôtel. Ce sont des habitations temporaires. Vivre dans une habitation temporaire a de nombreux effets. Tout d'abord, cela nous rappelle que nous sommes physiques, que la vie est temporaire. Elle est temporaire. Et Dieu souhaite en fin de compte que nous ayons la vie éternelle. Nous passons donc d'une existence physique temporaire à une existence spirituelle éternelle. Dieu nous forme dans sa fête, avec cette fête particulière, il nous forme à penser au-delà d'aujourd'hui, à penser au-delà des choses qui sont devant nous, à être tourné vers l'avenir, à être tourné vers l'éternité, à penser à notre avenir permanent dans son royaume, un royaume qui durera pour l'éternité. C'est pourquoi nous nous concentrons autant sur le royaume lors de la fête. Vous remarquerez que les messages portent sur le royaume de Dieu, qu'il s'agisse de la manière d'y parvenir, de ce à quoi il ressemblera, de la manière dont le monde entier pourra faire l'expérience de ce que nous vivons aujourd'hui, des bénédictions que Dieu répand. Dieu nous retire du monde, de nos routines habituelles pendant 7 jours, et cela en soi est un acte d'amour. Nous laisserons derrière nous de nombreux problèmes lorsque nous partirons pour la fête des tabernacles, et ils seront toujours là à notre retour. Mais pendant ces 7 jours, Dieu nous éloigne de tout cela, nous rassemble parmi son peuple, nous expose à de nombreux messages et nous fait découvrir une communion extraordinaire. Ouvrez votre Bible au Deutéronome 14. Deutéronome 14. Dieu concentre énormément de choses dans la fête des tabernacles. Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Deutéronome 14, verset 22. Il est écrit, « Tu donneras la dîme de tout le produit de tes semailles, de tout ce que ton champ produit chaque année. » Nous avons entendu dans le sermonette parler de la première dîme, mais comme nous allons le voir, d'après l'utilisation qui est faite de cette dîme, il ne s'agit clairement pas de la première dîme. Il s'agit de la deuxième dîme. Verset 23, « Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira. » Donc les lieux de fête de Dieu représentent tous des endroits qu'il a choisis. Comment cela fonctionne-t-il? Dieu, par le biais de son gouvernement, a conduit son gouvernement, les dirigeants de son gouvernement, à choisir ces différents lieux de fête, tous des endroits où Dieu a placé son nom. Revenons au verset. Dans le lieu qu'il choisira pour y faire résider son nom, la dîme de votre blé, de votre vin et de votre huile, et les premiers-nés de vos troupeaux et de vos troupeaux. Et voici la clé. Afin que vous appreniez à craindre l'Éternel, votre Dieu, tous les jours. Ainsi, une manière très importante dont Dieu nous montre son amour est de nous enseigner à le craindre. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Frères et sœurs, nous devons avoir une révérence et une crainte, une révérence et une crainte pour Dieu. Il ne s'agit pas d'une peur irrationnelle, mais d'une crainte respectueuse, d'une révérence, d'une crainte de Dieu, et nous sommes préoccupés par les conséquences de notre désobéissance. Restons dans le Deutéronome, passons au chapitre 31. Deutéronome 31, verset 10. Deutéronome 31, verset 10. Moïse leur donna cet ordre, à la fin de chaque période de 7 ans, lors de la solennité de l'année du Jubilé, à la fête des tabernacles, lisez ce verset, j'ai entendu ce verset récemment dans la série. Quand tout Israël viendra se présenter devant l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu qu'il choisira, tu liras cette loi devant tout Israël, en leur présence. Rassemblez le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les étrangers, c'est-à-dire tout le monde, qui sont dans vos portes, afin qu'ils entendent, qu'ils apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, et qu'ils observent toutes les paroles de sa loi. Et que leurs enfants, qui n'ont rien connu, entendent et apprennent à craindre l'Éternel, votre Dieu, tant qu'ils vivront, dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir passé le Jourdain. Frères et sœurs, nous voyons ici que tout le monde doit apprendre à craindre Dieu. Tout le monde. Les étrangers, les hommes, les femmes, les enfants, tout le monde est invité, tout le monde est inclus. Dieu aime tout le monde. Il œuvre à travers son peuple, Israël, et il le fait pour finalement aider tout le monde. Dieu aime tout le monde. Ce sont là toutes les choses, mes frères, qui sont renforcées lors de la fête. Lorsque nous sommes à la fête et que nous donnons 10% de nos revenus, c'est l'occasion pour nous démontrer également notre amour envers tout le monde, les étrangers, les hommes, les femmes, les enfants, ceux qui ne font pas partie de l'Église de Dieu. C'est l'occasion pour nous démontrer notre amour envers toutes ces personnes. Nous avons 7 jours pour le faire. Mais qu'en est-il du 8e jour? Qu'en est-il du 8e jour? Le dernier grand jour. Nous avons vu dans le Lévitique qu'il était appelé le 8e jour. Les 7 jours constituent la fête des tabernacles, mais le dernier grand jour est une fête distincte. On pourrait soutenir que le dernier grand jour, à l'exception peut-être de la Pâque où Dieu a sacrifié son Fils, représente le plus grand acte d'amour de Dieu. Pourquoi est-ce que je dis cela? Jean 7. Jean chapitre 7. Pourquoi est-ce que je dis que le dernier grand jour est sans doute le plus grand exemple de l'amour de Dieu? Encore une fois, à l'exception de la Pâque, et ce n'est qu'un point de vue, une opinion. La Bible ne classe pas les jours saints. Jean 7. Pourquoi est-ce que je dis que le dernier grand jour est sans doute le plus grand acte d'amour de Dieu envers l'humanité? Jean 7, verset 37. Jean 7, 37. C'est Christ qui parle. Le dernier jour, le grand jour de la fête, se référant bien sûr au dernier grand jour, Jésus se leva et s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Je vais le répéter. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Dieu mettra son esprit à la disposition de toute l'humanité, pas seulement de ceux qu'il appelle à cette époque. Remarquez qu'il est dit ici, si quelqu'un. Si quelqu'un a soif. Nous avons tous soif. Si nous sommes humains, nous avons tous soif. Dieu dit, si quelqu'un a soif, ce qui sera le cas, vous avez maintenant la possibilité de venir et de boire. Cela signifie que tout le monde, n'importe qui, les membres de notre famille, nos collègues, nos voisins, nos amis, nos ennemis, espérons-le, nous n'en avons pas trop, n'importe qui, tout le monde aura la possibilité de vivre la même chose, mes frères, que nous vivons. Verset 38, « Celui qui croit en moi, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Mais il parlait de l'Esprit, que ceux qui croient en lui devaient recevoir. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. À cet homme qui a soif, Dieu ne va pas simplement lui donner un verre d'eau. De son sein couleront des fleuves d'eau. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera accessible à tout homme. C'est pourquoi je dis que, sans doute, à l'exception de la Pâque, il fallait avoir le pardon des péchés pour que tout cela soit possible. Nous avons vu là que Christ devait mourir. Nous l'avons vu dans le contexte. Mais tout homme ayant la possibilité d'avoir accès à l'Esprit de Dieu, celui-ci est disponible. Et il est lié au dernier grand jour. Frères, c'est une chose extraordinaire, vraiment extraordinaire. Et cela est représenté par le dernier grand jour. Que représente d'autre le dernier grand jour? Il représente une résurrection massive. Allez à Ézéchiel 37. Imaginons à quoi cela ressemble. Vous savez, vous pensez à une résurrection, et la Bible en parle en détail. Nous parlerons d'une résurrection, vous savez, lorsque nous réfléchissons aux Écritures ou que nous les étudions. Mais il est intéressant d'avoir un exemple de ce à quoi cela ressemblera. Ézéchiel 37. À quoi ressemblera cette résurrection massive? Lisons le passage sur la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37. Ézéchiel chapitre 37, nous commencerons par le début. La main du Seigneur fut sur moi, Et il m'emporta dans l'esprit du Seigneur et me déposa au milieu d'une vallée remplie d'ossements desséchés. Réfléchissons à cette vallée. Bien sûr, s'il y avait des ossements desséchés, c'était une vallée aride. Et il me fit passer près d'eux, tout autour, et voici, il y en avait beaucoup dans la vallée ouverte, et voici, ils étaient très desséchés. Nous avons donc vu une vallée aride. Et il me dit, Fils de l'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? Imaginez un cimetière, un lieu rempli d'ossements, et on vous pose cette question, ces ossements peuvent-ils revivre? Pas ces ossements ont-ils vécu? Non. Peuvent-ils revivre? Peuvent-ils revivre à nouveau? C'est une question remarquable. Et je répondis, Seigneur, tu le sais. C'est peut-être une réponse diplomatique. Tu le sais. Je ne sais pas. Vous le savez. Et il me dit encore, prophétise sur ces ossements. Verset 4. Et il me dit, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ces ossements, voici, je vais faire entrer en vous un esprit, et vous vivrez. Oui, vous avez vécu, vous êtes né, vous avez vécu, vous êtes mort, vous êtes devenu des ossements, mais vous allez revivre. Verset 6. Je mettrai des nerfs sur vous, je ferai croître de la chair sur vous, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. Vous saurez alors que je suis l'Éternel. Seul Dieu peut accomplir cela. Si vous ramenez une personne à la vie, que cette personne revient et réalise qu'elle était morte et qu'elle est maintenant vivante, vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu, qui a accompli cela. Verset 7. Je prophétisais donc comme on m'avait ordonné, et tandis que je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, un tremblement se produisit, et les os s'assemblèrent, chacun avec son os. Ainsi, ces os éparpillés se rassemblent et se reconnectent. Et quand je regardais, voici, les tendons et la chair apparurent sur eux, et la peau les couvrit, mais il n'y avait pas de souffle en eux. Vous avez donc maintenant ces corps qui étaient des os éparpillés, et qui ont à nouveau des tendons, de la chair et de la peau. Nous pensons à une résurrection massive, mais nous ne pensons pas toujours nécessairement à ce à quoi cela ressemblera. Nous obtenons une description de ce à quoi cela ressemblera. Nous parlons du dernier grand jour et de la manière dont il montre l'amour de Dieu. Et il me dit, verset 9, prophétise au vent. Nous avons donc essentiellement ces cadavres, ces corps qui sont de retour. Verset 9, il dit, prophétise au vent, prophétise, fils de l'homme, et dit au vent, ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des quatre vents, ô souffle, et souffle sur ces morts, afin qu'ils revivent. Je prophétisais donc comme il m'avait ordonné, et le souffle entra en eux, et ils reprirent vie et se levèrent sur leurs pieds, formant une armée extrêmement nombreuse. Et pour éviter que ce soit une armée nue, ce qui n'était pas le cas selon moi, Dieu leur donna même des vêtements, il créa des vêtements pour eux. Il me dit, Fils de l'homme, ces ossements sont toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, et notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, ô mon peuple, j'ouvrirai vos tombeaux, je vous ferai sortir de vos tombeaux et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'aurai ouvert vos tombeaux, ô mon peuple, et que je vous aurai fait sortir de vos tombeaux, et que je mettrai mon esprit en vous, et que vous vivrez, et que je vous placerai dans votre propre pays. Alors vous saurez que je suis l'Éternel, moi, l'Éternel, qui ai parlé et qui ai accompli, dit l'Éternel. Frères et sœurs, une résurrection massive, tout comme Dieu a formé l'homme dans le jardin d'Éden et a insufflé dans ses narines le souffle de vie, Dieu reliera tous ses os. Nous venons de parler ici de la maison d'Israël, mais cela va se produire à grande échelle. Dieu rassemblera tous les os de ceux qui ont jamais vécu, leur redonnera chair et peau, leur insufflera la vie et leur donnera son esprit. Avec tous ceux qui sont vivants, comme l'a dit Christ, tout homme aura accès, une fois encore, à l'Esprit de Dieu. Cela révèle l'amour de Dieu. Le dernier grand jour montre clairement et relie clairement à l'amour de Dieu. Son souci pour toute l'humanité. Des milliards de personnes qui n'ont jamais su qui était Dieu, qui ont peut-être adoré de faux dieux ou qui étaient peut-être athées, qui n'ont jamais compris, auront enfin, l'occasion ou la chance de connaître Dieu avec son esprit et sans que Satan ne les en empêche. C'est un amour à une échelle, mes frères, que nous pouvons difficilement imaginer. C'est difficile à imaginer parce que nous connaissons ce monde. Mes frères, les jours saints ne sont pas seulement des jours sur un calendrier. Ils sont des images puissantes de l'amour de Dieu pour nous, son peuple. De la victoire au nettoyage au printemps, de la victoire sur le péché, du nettoyage du péché dans nos vies, à la réjouissance lors de la fête, à la crainte de Dieu. Les fêtes montrent qui est Dieu et ce qu'il veut pour nous. Mais nous devons nous demander, mes frères, nous devons nous demander, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il nous montre son amour, mais qu'en est-il de notre amour pour lui? Souvenez-vous, nous avons lu ces deux grands commandements, ces deux piliers, aimer Dieu et aimer son prochain. Comment cela s'inscrit-il dans la fête? Quel est notre rôle? Quel rôle devons-nous jouer? Tout comme les fêtes sont des moments privilégiés, des occasions exceptionnelles pour Dieu de nous manifester son amour, elles sont tout autant pour nous l'occasion de lui manifester notre amour et celui que nous avons pour les autres, le rôle que nous avons à jouer. C'est toujours la partie la plus agréable du sermon, la partie la plus agréable du message. Que devons-nous faire? Nous considérons toutes ces choses merveilleuses que Dieu a faites pour nous. Que devons-nous faire? Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13. Mes frères, la meilleure façon de manifester son amour pour Dieu et pour les autres pendant la fête est de commencer à l'avance. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait exclusivement pendant la fête ou pendant ces différentes fêtes. On commence à l'avance. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13. La première épître aux Corinthiens, chapitre 13, est le chapitre de l'amour. Nous sommes maintenant dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez réprouvé. Il est dit ici de vous examiner vous-même, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Nous pensons souvent à l'examen avant la Pâque, qui est bien sûr une fête, et nous devrions le faire, mais l'examen n'est pas exclusif à la fête de la Pâque. À l'approche de n'importe quelle fête de Dieu, nous devrions nous examiner pour savoir si nous sommes dans la foi. Serons-nous présents à ces différentes fêtes? Quel est notre état d'esprit? Si nous voulons tirer le meilleur parti de ces fêtes, nous devons y réfléchir à l'avance. Nous devons regarder en nous-mêmes. Nous devons nous examiner, comme il est dit ici, pour savoir si nous sommes dans la foi. M'examiner moi-même. Est-ce que je vais à la fête simplement parce que Dieu m'a dit d'y aller, ou est-ce que je vais à la fête simplement parce que si je n'y vais pas, le ministre va me demander pourquoi je n'étais pas là, et alors je ne pourrai plus être membre de l'Église de Dieu? Alors, vous savez quoi? Je vais simplement aller à ces différentes fêtes, ou à n'importe quelle fête de Dieu. En d'autres termes, y allons-nous par obligation? Frères et sœurs, nous devrions nous demander, pourquoi est-ce que je me rends à la fête? Pourquoi est-ce que je participe à la fête des trompettes? Et nous comprenons le jour des expiations. Pourquoi est-ce que je jeûne le jour des expiations? Pourquoi est-ce que je vais à la fête des tabernacles et que je reste sur le lieu de la fête jusqu'au dernier grand jour, sans partir plus tôt? Pourquoi est-ce que je fais cela? Suis-je spirituellement prêt pour cela? Que dois-je changer en moi avant de participer aux fêtes d'amour de Dieu? Mes frères, lorsque nous abordons les fêtes de Dieu, de cette manière, nous en tirons beaucoup plus. J'appellerai les fêtes de Dieu des rendez-vous spirituels. Ce sont des rendez-vous spirituels, des contrôles, si je peux m'exprimer ainsi, des contrôles spirituels. Tout comme nous ne nous rendons pas à un entretien d'embauche sans préparation, nous ne devrions pas nous rendre aux fêtes de Dieu sans préparation. Par exemple, chaque fête nécessite une offrande. Nous devons préparer ces offrandes. On nous dit, on nous rappelle, que ce soit dans le bulletin d'information ou dans les messages, qu'il faut réfléchir à ces offrandes, les préparer. Nous ne pouvons pas nous présenter devant Dieu les mains vides, ce serait un péché, nous devons donc apporter cette offrande, le jour même, cet engagement financier, mais nous devons y réfléchir à l'avance. Ces offrandes sont l'occasion pour nous de montrer l'amour de Dieu. Tout d'abord, elles sont un commandement, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ces offrandes nous donnent également l'occasion de montrer notre amour envers les autres. Comment? Eh bien, ces offrandes financent l'œuvre aide à prêcher l'évangile ou à fournir un repas à quelqu'un lors d'une fête, quelqu'un qui n'en a pas les moyens, les pauvres parmi nous. Économiser la deuxième dîme tout au long de l'année avant la fête est une autre forme de préparation. Et économiser la deuxième dîme est également un acte d'amour. Comment cela? Comment cela? Tout d'abord, garder la deuxième dîme, c'est obéir à Dieu, c'est un commandement. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, mettre de côté la deuxième dîme est un acte d'amour parce que nous obéissons à Dieu. Il faut de l'obéissance pour mettre de côté un pourcentage supplémentaire de vos revenus en plus de la première dîme. Il faut de l'obéissance pour faire cela. Maintenant, vous pourriez penser, oh, eh bien, je vais le récupérer. C'est la deuxième dîme. Je veux dire, je peux le dépenser pour moi-même. Mes frères, il faut de l'obéissance pour faire cela. J'ai personnellement entendu, nos ministres ont entendu, des gens proposer toutes sortes d'idées créatives et de moyens pour voler Dieu. Toutes sortes de raisons pour ne pas garder correctement la deuxième dîme ou pour puiser dans la deuxième dîme. Voler Dieu. Garder la deuxième dîme toute l'année est un acte d'amour. Mes frères, lorsque nous nous préparons intentionnellement avant chacune des fêtes de Dieu, cela revient à dire à Dieu, savez-vous quoi? Je ne me contente pas d'assister ou d'être présent physiquement à votre fête. Je m'investis. J'apporte le meilleur de moi-même à cette fête. Que ce soit la Pâque, la Pentecôte, les trompettes, le grand pardon, la fête des tabernacles, le dernier grand jour, j'y apporte mon esprit et mon cœur. Je vais surmonter tout péché dans ma vie afin d'être aussi pur que possible lorsque je me présenterai devant vous à votre fête d'amour. Je vais éliminer le désordre spirituel de ma vie. Je vais renforcer ma marche avec vous, Dieu, car je sais que si je participe à votre fête avec cet état d'esprit, j'en tirerai le meilleur parti. Ce sont là toutes les préparations et toutes les choses que nous devrions dire avant la fête. Qu'en est-il pendant la fête? Hébreux. Hébreux chapitre 10. Pendant ces différentes fêtes, pensez souvent à la fête des tabernacles, mais, bien sûr, cela inclut toutes les fêtes de Dieu. Qu'en est-il de l'amour divin pendant ces fêtes? Hébreux 10, verset 24. Hébreux 10, verset 24. Et considérons-nous les uns les autres afin de nous inciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Nous voyons donc ici que l'amour et les bonnes œuvres sont liés. N'abandonnons pas notre assemblée, comme certains en ont l'habitude, mais exhortons-nous mutuellement, d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Cela fait-il uniquement référence au sabbat? Cela fait référence au sabbat, le sabbat hebdomadaire, mais pas uniquement. Il fait également référence aux autres fêtes de Dieu. Ne pas abandonner nos rassemblements, nous réunir, nous assurer d'être présents. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est sérieux. Frères et sœurs, c'est sérieux. Dieu ne veut pas seulement que nous assistions à ces fêtes. Il veut que nous nous impliquions. Les fêtes, lorsque nous nous réunissons pour ces convocations, mes frères, sont un moment pour nous encourager mutuellement. Non pas pour nous provoquer à la colère ou au commérage, mais pour nous encourager à l'amour et aux bonnes œuvres. Soyons plus précis. L'amour et les bonnes œuvres. Revenons à la fête des tabernacles. C'est un excellent exemple de cela, mais, bien sûr, cela s'applique à toutes les occasions où nous nous réunissons. Mais en ce qui concerne spécifiquement la fête, il s'agit de planifier à l'avance, de confirmer où nous allons séjourner, de nous inscrire, de payer nos repas, de payer les activités à l'avance lorsqu'on nous le demande, d'organiser notre transport et de nous engager à être présents. Bien sûr, nous avons déjà fait cela pour cette fête. Les dates limites sont passées. Mais si vous vous demandez pourquoi l'Église insiste autant pour que vous vous inscriviez, nous nous assurons de nous engager à être présents à la fête et à payer les activités. Pourquoi continuer à insister là-dessus? Pourquoi en entendons-nous parler tout le temps? Eh bien, mes frères, c'est important. C'est un acte de sollicitude. Ici, au siège, nous devons planifier les choses. L'administration de l'Église doit planifier ces choses. Tout doit être fait de manière décente et ordonnée. Lorsque nous nous inscrivons, lorsque nous payons pour les activités lorsqu'on nous le demande, et que nous faisons tout ce qui est nécessaire pour nous engager. Il s'agit simplement de la fête des tabernacles, mais cela pourrait aussi être le paiement des déjeuners et d'autres obligations financières. Lorsque nous faisons cela, c'est un acte d'obéissance et de sollicitude. C'est un acte d'amour divin. C'est important. Mais pendant la fête, souvenez-vous de l'amour et des bonnes œuvres, qui incitent les autres à l'amour et aux bonnes œuvres. Priez pour ceux avec qui vous allez servir dans les différents départements. Priez pour les huissiers, l'équipe d'installation et le département de musique. Et priez pour la chorale des enfants et les départements de photographie et de vidéographie. Priez pour le bureau administratif. Si vous faites partie de ces départements, mettez-y tout votre cœur. Aimez et accomplissez de bonnes œuvres. Même en dehors de la fête des tabernacles, ou de toute autre fête, proposez de conduire les gens. Aidez-les à s'assurer qu'ils seront présents à la fête. Que ce soit la fête des trompettes, la fête des expiations, la Pentecôte ou les jours des pains sans levain. Pour en revenir à la fête des tabernacles, je pense que cela s'applique également à l'aide aux parents avec de jeunes enfants. Si vous voyez une mère débordée qui fait de son mieux pour garder ses enfants sous contrôle, offrez-lui votre aide. Ne restez pas là à la regarder. Aidez-la. Ne vous imposez pas, mais proposez votre aide. Proposez de garder les enfants pour permettre au couple de sortir et de profiter d'une soirée à la fête. J'ai vu beaucoup de gens le faire au fil des ans, et c'est un exemple merveilleux. C'est pourquoi j'en parle, parce que je l'ai vu. Mais veillons à continuer à le faire. Soyez disposés à prendre une place moins confortable ou à vous déplacer si un huissier vous le demande. C'est ma place. Eh bien, l'huissier a simplement besoin que vous changiez de place. Tout ira bien. Vous pourrez toujours entendre le message. Vous pourrez toujours participer. Soyez encourageant. Remerciez le ministère. Remerciez les personnes qui servent. Cela signifie beaucoup. Remerciez ceux qui organisent les événements. Après les services, nettoyez derrière vous. Aidez quelqu'un à porter un sac ou à se déplacer dans la salle, quelqu'un qui est peut-être infirme ou qui a besoin d'aide. Toutes sortes de façons spécifiques de montrer l'amour de Dieu. Pas seulement à la fête des tabernacles, mais à toutes les fêtes, même au sabbat hebdomadaire. Toutes ces choses s'appliquent. Déplacer des chaises, se déplacer lorsqu'un huissier vous le demande, aider une mère qui a peut-être du mal avec ses enfants, ses jeunes enfants. Cela s'applique à toutes les fêtes de Dieu. C'est le service physique. Qu'en est-il du service spirituel? Psaume 133. Psaume 133. Un verset très mémorable. Nous le connaissons tous. Psaume 133. Je vais en lire quelques versets, en fait. Psaume 133. Voyez comme il est bon, comme il est agréable pour des frères de demeurer ensemble dans l'unité. Quelle meilleure illustration de ce verset que pendant la fête de l'amour de Dieu, pendant sa fête de la charité. Verset 2. C'est comme l'huile précieuse qui coule sur la tête, qui descend sur la barbe, même la barbe d'Aaron, qui descend jusqu'au pan de ses vêtements, comme la rosée de l'Hermon, comme la rosée qui descend sur les montagnes de Sion. Car là, le Seigneur a ordonné la bénédiction, la vie, pour toujours. Frères et sœurs, lorsque nous sommes au fait de Dieu, participez de tout votre cœur et de tout votre esprit. Chantez avec enthousiasme, pas seulement passivement. Soyez attentifs pendant les services. Regardez l'orateur dans les yeux. Prenez des notes. Ouvrez les Écritures. Ce sont là autant de façons de montrer votre amour pour Dieu et sa parole, et de recevoir la parole de Dieu que ses serviteurs, son ministère, ont rassemblé. Vous pouvez également manifester votre amour envers votre prochain lors des fêtes de Dieu. Saluez une nouvelle personne ou quelqu'un qui est assis seul. Dites-lui bonjour. Il est bon de passer du temps avec votre cercle d'amis, mais sortez pour rencontrer d'autres personnes ou inviter d'autres personnes dans ce cercle et aidez-les à se faire des amis également. Arrivez tôt aux offices. Cela vous permettra d'avoir plus de temps pour fraterniser. Prenez le temps d'écouter lorsque vous êtes parmi d'autres personnes, ne vous contentez pas de parler, mais écoutez également. Ne vous contentez pas d'écouter. Prononcez ces paroles d'encouragement dont j'ai parlé à ceux qui sont responsables, au ministère et aux organisateurs, mais prononcez également des paroles d'encouragement les uns aux autres. Invitez quelqu'un à se joindre à vous pour un repas. Montrez toujours votre intérêt pour les autres. Tous les actes d'amour sont enracinés dans l'obéissance. Mes frères, efforcez-vous de préserver l'unité. J'ai souvent observé cela lors des fêtes au fil des ans. Cela n'arrive pas souvent, mais lorsque c'est le cas, ce n'est pas souhaitable. Cependant, les gens ne s'entendent pas toujours bien. Mes frères, lors des fêtes et de la fête des tabernacles, nous sommes ensemble pendant de nombreux jours. Abandonnez vos petites préférences. Évitez les clics. Cela ne représente pas Dieu. Servez quelqu'un en dehors de votre cercle habituel. Parlez-vous avec gentillesse, pas avec dureté. Soyez positif. Ne soyez pas critique. Pourquoi nous font-ils faire cela? Pourquoi avons-nous une journée familiale ici? Pourquoi cela? Pourquoi ce menu? Pourquoi commandent-ils cela au menu? Soyez positif, ne soyez pas critique. D'accord, peut-être que vous n'aimez pas les sandwichs de la charcuterie, mais faites de votre mieux avec ce que vous avez, avec ce qui vous a été fourni. Soyez reconnaissant pour cela. Si quelque chose ne va pas, demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine de gâcher ma fête ou celle de quelqu'un d'autre? Est-ce vraiment si grave? Non, ce n'est pas grave. Des problèmes vont se présenter, mais l'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce que dit le verset. L'amour couvre une multitude de péchés et conduit finalement à une plus grande unité. Lorsque nous pouvons fermer les yeux sur quelque chose, c'est un acte d'amour, une préoccupation envers les autres. Mes frères, alors que nous arrivons à la fin, comme je l'ai dit, les fêtes approchent. Elles sont à nos portes, ces fêtes de charité, ces fêtes d'amour. Et, bien sûr, nous avons vu que l'amour divin n'est pas seulement un sentiment ou une émotion, c'est l'obéissance à la loi de Dieu, l'obéissance à ses commandements et le fait d'avoir cette sollicitude envers les autres. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans Jude, bien sûr, c'est qu'il y a cette expression, l'effet de l'amour, mais j'ai lu autant que je l'ai fait parce qu'il y était question de tâches dans ces faits de l'amour, de défauts, d'impureté. Mes frères, ceci est un avertissement de Dieu. C'est un avertissement de Dieu. Les personnes qui ont été nommées, que ce soit Corée, Balaam ou Caïn, étaient des tâches. Elles représentaient des tâches dans les festins de charité de Dieu. Mes frères, si nous apportons l'égoïsme, les commérages, l'orgueil, la paresse, une mauvaise attitude, tout le contraire de ce dont nous avons parlé aujourd'hui, si nous faisons cela, nous devenons des tâches. Nous risquons de devenir des tâches dans ce que Dieu appelle pur, dans ce que Dieu considère comme saint. Des tâches dans ces festins d'amour, des tâches dans ces festins de charité. Mes frères, nous ne voulons pas faire cela. Nous ne voulons pas faire cela. Ne vous contentez pas d'assister à ces fêtes à venir. Ne vous contentez pas d'assister au service et de cocher des cases, participez. Avant d'y aller, examinez-vous, prévoyez de servir de manière significative, puis, une fois sur place, allez jusqu'au bout et servez. Frères et sœurs, assistez à chaque fête, en vous souvenant de son but et en vous appuyant sur celui-ci. Soyez prêts à donner, prêts à obéir, prêts à servir. Embrassez vos faits d'amour.